l'honneur d'accueillir Monsieur Nicolas Bavrez. Et nous vous écoutons.
Merci infiniment. Merci de votre invitation. Encore que vous voyez que c'est le moment de la chute où nous allons passer du ciel de la théologie aux réalités économiques. Et on a parlé de la raison pratique ce matin. On va parler de raisons économiques, mais aussi de raisons historiques. Le capitalisme dont on a parlé, c'est ce que Marx rappelait à juste titre, c'est une machine à produire avec l'inexorabilité d'une loi de la nature des crises. Mais le génie du capitalisme, et ce que Marx n'avait pas vu, c'est que le capitalisme est aussi capable de trouver des solutions à ces crises. Et en réalité, c'est donc comme pour la guerre selon Clausewitz, c'est un caméléon. Et il faut bien voir que le capitalisme ne cesse de muter, et cette dimension historique est, à mon avis, très importante à prendre en compte. Donc on a eu successivement, depuis la fin du XVIIIe siècle, le capitalisme de la révolution industrielle, le capitalisme de la grande industrie, le capitalisme de la production et de la consommation de masse, le capitalisme de l'ère keynésienne et le capitalisme mondialisé. Et nous sommes à un moment charnière depuis ces années 2020, où après des chocs successifs, 2008, la Covid, et avec l'invasion de l'Ukraine, donc ce capitalisme mondialisé est en train d'imploser définitivement et de se restructurer autour d'un certain nombre de blocs. Et par ailleurs, il subit deux grandes révolutions, la révolution numérique et puis la nécessité de la transition climatique. Et quand on regarde ces transformations, on s'aperçoit que à chacune de ces formes de capitalisme, on a des formes de travail. Et que le travail est le principal vecteur des changements de nature et de structure du capitalisme, et que ces changements s'effectuent à travers des grandes crises qui sont aussi des crises de chômage. Quelques exemples. La première vraie crise industrielle de la société industrielle, c'est 1848, avec les ateliers nationaux, la double révolution, la fin de la monarchie de juillet et les journées de juin. Et elles avaient été précédées des révoltes des canuts à Lyon, dont Marx soulignait à juste titre que c'était les premiers mouvements de type marxiste. Ensuite, comme vous le savez, à la fin du XIXe siècle, il y a une grande dépression, et des États-Unis à l'Europe, on a toute une série de mouvements sociaux, avec également des mouvements populistes. Ensuite, dépression des années 30, et donc le chômage de masse, dont vous savez à quel point il a déstabilisé les démocraties et contribué à l'ascension, en tout cas, d'Hitler en Allemagne. Année 1970, les chocs pétroliers et la montée combinée de l'inflation et du chômage qui met fin à l'ère keynésienne. Et puis aujourd'hui, on a de nouveau un monde avec beaucoup de transformations et du travail et du chômage autour de la révolution numérique, de ces nouvelles formes d'entreprise que sont les plateformes, autour des entreprises globales qui sont aujourd'hui en train de se restructurer pour en arrêtant l'optimisation des chaînes de valeur pour porter beaucoup plus d'attention à la sécurité à la suite de l'épidémie de Covid et puis de l'invasion de l'Ukraine et de la montée d'une conflictualité très forte entre les empires autoritaires et les démocraties. Donc, cette introduction pour bien souligner auprès de vous qu'il faut donc, derrière ces concepts qui sont des concepts globaux, il faut bien voir que le travail est toujours le produit d'une géographie, d'une histoire et d'une structure nationale. Ultime point de cette introduction, j'appelle votre attention sur le fait que le chômage, c'est beaucoup plus qu'un simple déséquilibre économique. Évidemment, c'est le marché du travail est un des grands marchés directeurs d'une économie, et quand il dysfonctionne, c'est un problème macroéconomique majeur. Mais derrière le chômage, on a bien sûr de la destruction de richesses, on a de la destruction de capital humain, mais on a beaucoup plus, on a des vies, des destins qui sont brisés, des familles qui éclatent, des territoires qui basculent dans la pauvreté et parfois des démocraties qui s'effondrent. Et j'insiste là-dessus, toutes les grandes crises de la démocratie ont eu lieu sur fond de chômage. Ça a été vrai à la fin du 19e siècle, ça a été vrai dans les années 30, c'est évidemment vrai aujourd'hui avec la montée du populisme dans les démocraties depuis les années 2010. Donc, je voudrais maintenant essayer de regarder d'abord pourquoi il y a bien une exception française du chômage de masse, vous montrer pourquoi c'est indissociable de la manière dont s'est construite notre économie et dont elle est régulée, revenir sur le rôle central du chômage dans le décrochage de la France depuis les années 1980, et puis terminer en insistant sur le fait que le chômage n'est pas une fatalité et que la France pourrait tout à fait sortir de cette situation qui est effectivement une situation très dangereuse sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et politique. Donc d'abord, il y a bien une exception française du chômage de masse. Qu'est-ce que c'est que le chômage de masse ? C'est à la fois un chômage élevé et un chômage de nature structurelle. Et c'est bien le cas dans notre pays. Donc aujourd'hui, même s'il a diminué, le chômage touche 7,3% de la population active. C'est beaucoup plus que les pays développés qui sont à 4,9%. L'Allemagne 3,2, les États-Unis 3,5, la Suisse 4, le Royaume-Uni 4,4. Surtout, ce chômage a une nature structurelle, c'est-à-dire que on a une part du chômage de longue durée qui est très forte, et évidemment la durée longue du chômage va avec à la fois l'enracinement du chômage et surtout le moment où les gens quittent le marché du travail parce qu'ils sont déqualifiés et qu'ils ne peuvent plus participer au marché du travail. Et derrière, il y a une particularité de la France qui est que ce chômage massif va de pair avec en fait un emploi qui est assez limité et un travail qui est concentré sur une toute petite partie de la population. Le taux d'emploi en France, donc le nombre de gens qui travaillent par rapport à la population active, c'était 64% en 2010 et ça a monté jusqu'à 69% aujourd'hui. Donc ce mouvement est favorable, mais c'est 75% aux États-Unis et c'est entre 72 et 80% dans la plupart des pays européens. Le nombre d'heures travaillées par an, c'est 1390 en France contre 1716 dans l'OCDE, 1510 au Royaume-Uni, 1810 aux États-Unis, et en Asie, c'est autour de 2000. Donc, vous voyez qu'il y a une situation singulière où, contrairement à ce qu'on dit souvent, la diminution du travail va de pair avec la montée du chômage. La dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est que en France, en moyenne, je dis bien en moyenne, on travaille entre 22 et 62 ans, alors que l'espérance de vie, ce qui est très heureux, est une des espérances de vie les plus longues des pays développés, où généralement dans les autres pays développés, on travaille jusqu'à 65 ou entre 65 et 67 ans. L'autre particularité de la France, c'est que ce qui a été rappelé à l'instant, c'est que c'est une histoire longue. La dernière fois que la France a eu un taux de chômage de 7%, c'était en 1977. Donc ça veut dire, en France, le chômage n'est jamais retombé en dessous de 7% depuis. Alors, il y a eu des vagues de chômage élevées dans la plupart des autres pays développés, mais ils sont tous revenus au plein emploi à un moment donné ou à un autre. Et donc, c'est une particularité française et qui renvoie un peu à ce qui s'était passé aussi dans les années 1930, où la France est rentrée tardivement dans la crise, mais où elle s'est enlisée. Et c'est le pays développé, la production industrielle est inférieure en 39 de 18% à son niveau de 29, alors que dans les pays développés, c'est un peu au-dessus. Et donc, là aussi, le chômage s'était enraciné, mais à l'époque, il a été géré beaucoup, parce que la France était encore une société très rurale, par le départ d'un certain nombre de gens des villes vers les campagnes. Et ça, c'est un autre point historique qui est important à avoir en tête, c'est que vous voyez que cette notion de chômage qui nous paraît naturelle, la pénurie de travail, elle est aussi ancienne que les systèmes productifs. Mais l'apparition, la notion de chômage, en fait, elle apparaît chez nous avec le recensement de 1896. Et elle apparaît en même temps que la grande loi sur les accidents du travail de 1898, qui reconnaît à la fois la notion d'entreprise et le contrat de travail. Et donc, vous voyez que cette notion de chômage qui nous paraît naturelle, elle émerge en fait au croisement de l'urbanisation et de l'industrialisation. Avant, le manque de travail était géré par la sous-productivité, notamment dans le monde agricole. Et donc, pour toutes ces raisons, on a vraiment un profil qui est un profil qui tranche parmi les pays développés, donc plus de chômage, un chômage davantage structurel, concentré très fortement sur certaines populations comme les jeunes, un phénomène qui s'installe dans la durée longue, et par ailleurs, derrière, une segmentation du marché du travail, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui travaillent beaucoup, qui sont très productifs, et de l'autre côté, un chômage qui se concentre sur les parties les plus fragiles de la population. On a d'un côté 5,7 millions d'emplois publics donc, qui sont très fortement protégés, mais ça veut dire qu'on reporte toutes les fluctuations sur les marges du marché du travail. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette particularité française ? C'est un peu ce que je vous indiquais, c'est-à-dire que quand on parle de travail ou de chômage, il faut toujours resituer les choses dans l'histoire et dans une histoire un peu longue. La France a un profil politique, mais aussi économique, extrêmement heurté depuis 1789. C'est la quatrième puissance du monde en 1900 comme en 2000, mais entre-temps, elle est passée par des hauts et des bas vertigineux. Il y a eu des périodes fastes, la belle époque, les années folles et les Trente Glorieuses, surtout. Et puis, il y a eu des moments de vrai déclin dans les années 30, et puis maintenant, depuis les années 1980. On est revenu aujourd'hui à la septième place des économies mondiales. Alors, comment est-ce qu'on explique ce chômage ? En fait, classiquement, les économistes distinguent trois types de chômage, et il se trouve qu'on les cumule. Le premier chômage, c'est le chômage keynésien, c'est l'insuffisance de la demande. Et il se trouve qu'on a une croissance potentielle qui est passée d'un peu plus de 4% au début des années 70 à pratiquement zéro aujourd'hui. Donc, incontestablement, il y a un problème de demande, même si cette demande continue. La consommation reste le seul facteur un peu dynamique, mais elle est subventionnée par les transferts sociaux et donc la dette publique. Le deuxième chômage, c'est un chômage dit classique, c'est-à-dire un chômage d'offres. Et là, il est clair qu'on a un vrai problème de fonte, d'absence de compétitivité de l'appareil productif. La France ne produit que 36% des biens industriels qu'elle consomme. Donc ça donne une idée de la fonte de l'industrie pour des raisons de compétitivité. Et également, il y a incontestablement un retard en matière d'innovation. Nous y consacrons 2,1% du PIB contre 3,2% pour les États-Unis, 4,2% pour la Suède. Et effectivement, ces pays asiatiques sont entre 4 et 5% du PIB. Et puis, il y a le troisième chômage, qui est ce qu'on appelle le chômage d'ajustement, c'est-à-dire le fait qu'on a des qualifications de la main-d'œuvre qui ne correspondent plus au type d'emploi proposé. Et là, c'est spectaculaire, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 50% des salariés en France qui n'ont pas les compétences requises pour occuper le poste qu'ils occupent. Et derrière, l'origine, donc il y a une sous-qualification qui est en train de s'aggraver à cause des difficultés du système éducatif, puisque notre pays est au 26e rang sur 32 dans les classements PISA. Donc voilà pour les raisons économiques. Ensuite, bon, tout ça renvoie aussi à un certain nombre d'erreurs de politique économique et dans lesquelles le travail a joué un rôle assez central. Donc la première, c'est 81-83, une relance à contre-courant qui nous met aux portes du FMI en 1983, et par ailleurs, toute une série de mesures qui vont, j'allais dire, mettre de la distance entre les Français et le travail. Les 39 heures, la retraite à 60 ans surtout. Et donc, tout ceci aboutit à... Il faut se souvenir que les 30 Glorieuses sont un moment de croissance intensive, mais que cette croissance intensive correspond à un travail intensif. Jusque dans les années 50, les Français... On a maintenu la loi des 40 heures, mais les Français travaillaient entre 52 et 56 heures par semaine pendant la phase de reconstruction. Donc ça a été une période de... C'est une période remarquable parce que la population active, en réalité, on est avant le... Enfin, il y a le baby-boom, mais par définition, les enfants ne sont pas arrivés sur le marché du travail. Donc c'est une population restreinte qui va vraiment faire la reconstruction. Et ça, ça se casse en 81. Ensuite, Francfort, Eurofort, on a cassé les... Notamment, il y avait un vrai Mittelstand français et ces politiques de surévaluation de la monnaie ont cassé une partie des PME françaises et beaucoup abîmé le tissu industriel. Ensuite, la loi des 35 heures, là, on est complètement à contre-courant, c'est-à-dire les Allemands font l'agenda 2010, les Chinois rentrent dans l'OMC et nous, on fait les 35 heures. Et ça, c'est vrai que ça a coûté très cher. Et ensuite, on est rentré dans un système de décroissance à crédit, où finalement, vous voyez que les Allemands sortent des règles de Maastricht, mais pour faire l'agenda 2010 et pour remettre à flot leur industrie et mettre en place le modèle mercantiliste qui va durer jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, qui a sauté depuis, mais qui a quand même fait pratiquement deux décennies de prospérité. Et nous, en fait, on sort des critères de Maastricht, mais pour distribuer de l'argent fictif, en réalité. Et donc, financer des transferts sociaux sans production de richesse. Et c'est ça qui, aujourd'hui, aboutit à cette dette de 3150 milliards d'euros, qui, en face, on n'a pas de l'investissement. On a juste des dépenses de fonctionnement qui ont été faites dans la fonction publique et pour les soutenir la consommation. Donc voilà la dernière explication qui renvoie à ce profil de la France, c'est un mode de développement et de modernisation qui est très heurté. Comme je le disais, il y a cette alternance de haut et de bas. Et le modèle français est un modèle où l'État a un rôle très important, un rôle directeur. Donc l'État a incontestablement été un des grands moteurs et des promoteurs de la modernisation de 45 jusqu'à 1981. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est plutôt un facteur de rente et de blocage, avec donc, il mobilise 58% du PIB. Si on avait, comme en Europe du Nord, des services publics de très grande qualité, ça serait tout à fait compréhensible. Mais 58% du PIB, quand l'éducation, la santé, les transports, le logement, la justice et la police dysfonctionnent, là, c'est un modèle qui n'est pas tenable. Et derrière, vous voyez que ça explique ces tensions dans la société française, parce que, je reviens à la segmentation, si on veut être... c'est un peu à la serpe, mais en réalité, on a trois Frances. Il y a une France qui est dans la mondialisation, qui représente à peu près 15 à 20% de l'économie et de la société. Alors, en partie dans les grandes métropoles, surtout la métropole parisienne, mais pas seulement. Il y a une France qui est protégée et qui n'est pas seulement celle du secteur public, parce qu'il y a une partie du secteur public qui, en réalité, est exposée à des formes de concurrence et qui peut être à un bon niveau. Mais une partie de l'économie privée qui vit, en réalité, de la redistribution de la dette publique. Et puis, il y a la partie la plus j'allais dire la plus difficile, qui est la France exclue, la France livrée à l'anomie, parce que c'est là où le travail est beaucoup plus qu'une valeur économique. Vous voyez que quand on retire le travail pendant une durée longue d'un territoire ou d'une communauté, en fait, on détruit les liens sociaux, on détruit les liens sociaux et humains. Et donc la disparition du travail, c'est beaucoup plus grave que simplement la disparition d'une source de revenus. C'est la disparition de ce qui est le principal facteur de formation des identités et de l'intégration dans des sociétés développées comme les nôtres. Alors le troisième point, c'est évidemment les conséquences. Compte tenu de ce que je vous ai dit, c'est vrai que ces conséquences sont très importantes pour la France. Quand on regarde le différentiel de croissance de la France avec les autres grands pays développés, ça s'explique pratiquement intégralement par l'insuffisante mobilisation, la faiblesse du capital humain et l'insuffisante mobilisation du travail. Et puis, bien sûr, derrière, il y a la paupérisation. Et elle est assez spectaculaire parce que maintenant, la richesse par habitant en France est inférieure de 15% au niveau allemand. Et on est maintenant au 26e rang mondial par la richesse par habitant, ce qui est quand même un recul très spectaculaire. Et puis maintenant, ça se traduit par des problèmes de productivité, puisque la productivité du travail a baissé de 6% depuis 2019. Donc, deuxième conséquence, ce sont les conséquences sociales. Évidemment, avec la segmentation du travail, la polarisation, on génère des inégalités. Et on a cette espèce de machine infernale où plus on a d'inégalités, plus on fait de transferts, plus on se fait de transferts, plus on fait de fiscalité, plus on fait de fiscalité, moins on a d'activité, d'investissement et d'emploi. Et c'est cette espèce de spirale infernale qu'il faut essayer de casser. Sur le plan social, on a cette logique de la paupérisation, cette logique de fragmentation de la classe moyenne et donc de mobilité ascendante qui ne marche plus, puisque c'est évidemment par le travail que se fait la mobilité. Et derrière, la disparition du travail d'une partie du territoire et de la population explique les problèmes de violence. C'est Conrad qui disait dans Au cœur des ténèbres, « Je n'aime pas le travail, personne ne l'aime, mais j'aime ce que le travail recèle, la chance de se trouver. » Et j'allais dire, c'est aussi la chance de se retrouver. Le travail, c'est vraiment le cœur de la socialisation. Et quand on l'enlève, eh bien, effectivement, on brise le lien social. On brise aussi le lien entre les citoyens. Et ça, c'est ce que j'ai rappelé, c'est que, évidemment, le chômage joue un rôle très important dans la montée du populisme en France, dans la partie... Donc la France est évidemment n'est pas le seul pays à être touché. D'une certaine manière, elle a été assez longtemps préservée par rapport à tous les facteurs de risque qu'elle pouvait présenter, puisque c'est finalement par le cœur du monde démocratique en 2016, Royaume-Uni Brexit et Trump aux États-Unis, que cette vague populiste a vraiment été... lancée après la Hongrie de Orban, mais incontestablement, quand on regarde aujourd'hui le vote extrémiste en France, il est, et notamment le vote pour le RN, la carte du chômage est évidemment très proche, en tout cas, de ce que sont les bastions du RN. Et derrière, vous voyez qu'il y a aussi cet impact sur le travail. Il y a une espèce de crise intellectuelle et morale. L'absurdité de la fin du travail, de même qu'il n'y a pas de fin des frontières et des nations, ça a été une énorme erreur. Nous sommes dans une économie de la connaissance, nous sommes dans une économie de grande révolution. Chaque fois qu'il y a une grande révolution industrielle, il faut mobiliser le travail, parce que c'est par le travail des hommes que transitent en réalité les révolutions technologiques. C'est aussi par le travail des hommes que devra cheminer la transition climatique. Et les deux autres pathologies du coup qui en résultent, c'est d'abord le retour du malthusianisme français, l'idée que c'est en limitant la quantité de travail qu'on va régler le problème du chômage, c'est exactement l'inverse. et la coupure avec une partie du monde du XXIe siècle, parce que ce monde du XXIe siècle, c'est le monde de l'intelligence artificielle. Le paradoxe veut qu'il y a beaucoup d'ingénieurs français qui participent aux États-Unis, mais qu'il y a un vrai retard français, en revanche. Et c'est pour ça que on a tout ceci abouti à une forme de risque France, un risque économique, financier avec la dette, un risque social. J'insiste là-dessus. Une des exceptions françaises et qui prouve, à mon sens, que le bien fondé de la thèse que je défends, c'est que, évidemment, avec la série des chocs, le krach 2008, la pandémie, l'inflation, le choc énergétique post-guerre d'Ukraine, il y a des difficultés sociales dans toutes les démocraties. Mais la France est le seul pays où on a eu les gilets jaunes, les retraites, les émeutes urbaines et les agriculteurs. Les agriculteurs, il y avait une dimension européenne. Et vous voyez que ça montre la variété des problèmes qui se posent, parce que les émeutes urbaines, ça, c'est effectivement les exclus. Les agriculteurs, c'est un secteur qui est télescopé par la transition climatique. Les gilets jaunes, c'était la France périphérique qui est exclue. Et à l'inverse, les retraites, c'est la France protégée. Donc vous voyez que finalement, tous ces morceaux du puzzle France sont tous quand même extrêmement vulnérables et fragiles. Alors, est-ce que ce chômage de masse est une fatalité? Je ne le crois pas du tout. Je pense qu'on peut parfaitement rétablir le plein emploi en France. Mais ça suppose effectivement des changements un peu fondamentaux. Et on a peut-être une occasion à saisir aujourd'hui. Alors, d'abord, la France est un pays, c'est pas un pays qui a vécu sous un chômage permanent pendant, et notamment depuis 1945, de manière constante. Donc pendant les Trente Glorieuses, le chômage était aux alentours de 2 à 2,3% jusqu'au début des années 70. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en 1945, les hommes de 45 sont persuadés qu'ils vont revenir aux années 30. Donc ils sont persuadés qu'on va retourner à une croissance faible, et ils sont hantés par le chômage. C'est aussi pour ça qu'on a construit les États-providence. Et en réalité, on a bien vu qu'il était parfaitement possible d'installer le plein emploi dans la durée, à condition d'avoir un modèle national qui soit performant et qui permette de réconcilier la production et la solidarité. L'autre source d'optimisme, c'est qu'il y a des pays où c'est le cas. Si on regarde du côté de l'Europe du Nord, on s'aperçoit que dans des pays comme la Suède, le Danemark, la Norvège, on a à la fois une croissance assez forte, une innovation tout à fait marquante, une transition climatique qui est très fortement avancée, puisque le Danemark est pratiquement en neutralité carbone déjà. Et ce sont des pays à la fois compétitifs et avec un fort niveau de solidarité. Donc, ça n'est pas du tout infaisable, y compris en Europe, donc y compris avec des États-providence développés et y compris avec des coûts du travail qui restent des coûts évidemment plus élevés que dans un certain nombre de pays émergents. Mais évidemment, ça suppose de changer de politique, de changer d'état d'esprit. Donc pour moi, la première chose, c'est que il faut cesser de faire une politique du chômage, il faut faire une politique du plein emploi. Donc il n'y a pas de plein emploi possible sans reconstitution d'une offre productive. C'est un des grands héritages, si vous voulez, positif là encore, de l'administration Biden. À travers l'IRA, alors certes, ils ont la force du dollar, la capacité à s'endetter de manière presque illimitée et pour l'instant sans sanction, mais les États-Unis ont mis en place un système qui est une machine à refabriquer de l'industrie, de l'innovation, de la transition climatique et de la classe moyenne avec des revenus à la fois stables et convenables. Donc ça montre qu'on peut avoir des réponses intelligentes et qui lient l'offre productive et compétitive avec la transition climatique et avec la stabilisation, la reconstitution de la classe moyenne. Évidemment, il faut travailler sur la quantité et la qualité du travail avec en essayant de limiter le problème du coût. Donc une heure de travail en France coûte 43,3 € et c'est 36 € en moyenne dans la zone euro. Donc il y a quand même un différentiel qui est important. Et puis il y a un point qui est vraiment fondamental et sur lequel la France est impardonnable, c'est l'effondrement du système éducatif. Ça, c'est vraiment un des facteurs de long terme les plus inquiétants dans une économie qui est une économie de la connaissance. Et donc là, il faut décentraliser ce système, il faut remettre le savoir et le mérite au cœur de l'enseignement, et puis il faut attacher et investir dans l'enseignement professionnel qui a toujours été le parent pauvre de notre système de manière historique et à grand tort. Alors pourquoi est-ce qu'on peut quand même être assez optimiste? C'est que vous voyez que finalement tout ça, ça renvoie et ça renvoie de manière plus large d'ailleurs aux discussions qu'on vient d'avoir sur la propriété privée, ça renvoie à un problème auquel se trouve confrontée la France comme tous les pays développés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réaligne le capital humain, le capital financier, le capital économique et le capital naturel. Et donc, il est vrai que ça suppose une nouvelle donne qui est en train d'émerger avec un nouveau pacte entre les États, les entreprises et les citoyens. D'une certaine manière, l'IRA aux États-Unis est un exemple de ce qui peut être fait dans cette matière. Et ça suppose sans doute, enfin même sûrement, de sortir du capitalisme actionnarial pour avoir davantage un capitalisme de parties prenantes qui gère mieux les risques entre les différentes parties prenantes des entreprises. Et de fait, il y a un moment qui est un moment à ne pas rater cette fois-ci, qui est ce moment de basculement, puisque incontestablement le système de la mondialisation est mort, donc on ne sait pas quel va être. Le capitalisme actionnarial est aussi en bout de course. Donc, qu'est-ce qui va émerger de la crise présente, on ne le sait pas, mais en tout cas, ça permet à la France de pouvoir peut-être anticiper et se repositionner de manière intelligente. De même, dans ce monde post-guerre d'Ukraine et post-Covid, les notions de souveraineté, de sécurité ont beaucoup plus d'importance. Il y a un nouveau rapport, c'est plutôt les États qui ont la main sur les marchés. C'est un monde où la sécurité devient plus importante que l'optimisation des chaînes de valeur. C'est un monde où la géopolitique prend le pas sur l'économie. Donc, c'est dans cette grande mutation qu'il faut essayer de réinventer un modèle français qui soit un modèle performant. Donc, au bout de ce parcours, vous voyez que c'est vrai qu'on est vraiment à un moment de basculement de l'histoire, et là qui touche évidemment toutes les démocraties, un moment clé où les empires autoritaires ont engagé une vraie confrontation avec les démocraties, avec l'idée de construire un monde post-occidental qui sera un monde fondé sur de purs rapports de force et où la liberté politique n'aura pas sa place. Mais cette histoire, elle n'est pas écrite et elle n'est pas jouée, parce qu'il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Dans les bonnes nouvelles, les empires autoritaires ne sont pas si forts que ça. La Chine est en crise économique sérieuse. La Russie, c'est un désastre stratégique. En Iran, les femmes se révoltent et une partie de la population masculine également. Donc, beaucoup de ces États autoritaires sont aussi vulnérables. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que dans ces grands bouleversements, dans cette économie de la connaissance, ce monde de l'intelligence artificielle, paradoxalement, le capital humain n'a jamais été aussi important. Et c'est vraiment la clé de la richesse des nations, encore plus que d'habitude. Ce sera aussi la clé de la résistance des démocraties face à l'offensive des empires autoritaires. Et donc, le travail est donc central, non seulement pour la richesse, non seulement pour l'intégration, l'équilibre, la cohésion des nations, mais aussi pour leur puissance. Et c'est bien pour ça que vous voyez qu'il a un rôle dans nos démocraties qui est un rôle souvent sous-estimé, parce que c'est vraiment le pivot entre les individus, les entreprises et l'État, entre la citoyenneté, l'économie, et puis le monde de la vie privée. Et je vous quitterai, parce que finalement, la sagesse des Grecs est toujours impressionnante. Et Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, a une phrase lapidaire qui dit tout, c'est Périclès qui la prononce: se reposer ou être libre, il faut choisir. Et donc, je crois profondément que si nous voulons rester libres, nous devons nous mettre et nous remettre au travail. Merci beaucoup.
Nous avons le temps pour quelques questions.
Bonjour. Ma question, c'est: est-ce que la situation de la France, d'un point de vue humain, pas forcément économique, est plus grave que dans les autres pays? Et quels sont les risques pour la France?
Alors, est-ce que c'est plus grave? Oui, c'est plus grave notamment pour un chiffre que je vous ai épargné, mais qui est qu'on a 13% des jeunes qui sont aujourd'hui à la fois sans emploi et sans aucune formation. Et ça, dans les autres pays développés, c'est entre 7 et 9%. Donc, cette partie de... avec si on rajoute à ça les problèmes de l'éducation, là, je vois là-dessus une vraie menace. Et ce que je rappelais, hein, c'est que bon, on n'est pas les seuls à avoir du chômage. Il y en a en Espagne, il y en a en Italie, mais beaucoup de pays développés aujourd'hui ont des difficultés. Mais il faut rappeler que la norme dans les pays développés, puisque généralement on estime que le plein emploi c'est autour de 5%, et comme je le rappelais, pour l'instant dans l'OCDE, le taux de chômage, il est de 4,9%. Donc, grosso modo, le monde développé, pour l'instant, est un monde en plein emploi. Et pour moi, dans les risques, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est qu'on n'est plus dans le domaine... Enfin, c'est des risques qui se sont matérialisés. Pour moi, je trouve que ces signaux ne sont pas entendus, mais quand même, dans un moment de temps extrêmement limité... On aura eu les gilets jaunes, les violences autour des retraites, les émeutes urbaines dans 500 villes quand même, et enfin le mouvement des agriculteurs. Je trouve que c'est quand même... Là, il y a un vrai signal d'alerte de la société qu'il faut entendre. Donc, pour ça, je trouve... Voilà, il y a un vrai risque social en France. Et c'est pas seulement des mots, il s'est déjà pour moi matérialisé dans ces événements.
Vous avez dit que la France produisait 40% de votre
industriel. Industriel.
Oui.
Oui.
Pour avoir du personnel qualifié, il y a beaucoup de gens qui sont pas qualifiés. Alors, les gens. certains sont des marques d'anthologie. De la carbone, moi je parlais du tout, sur projet. Pour moi, la production est un résultat, parce que les États-Unis ou la Chine n'ont pas changé et pour tout le temps. Et enfin, une dernière question, je peux vous revenir. Vous avez parlé du capitalisme actionnariat. Est-ce que je crois que c'est bien que nous pouvons les États-Unis, parce que là, c'est pas du bon. Comment on fait les États-Unis pour faire changer le capitalisme actionnariat pour l'avenir?
Alors, ça fait beaucoup de questions. Donc, en tout cas, sur la désindustrialisation, vous avez absolument raison. C'est un des points, là aussi, où la France se distingue. C'est-à-dire que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée est passée de 20 à 9% depuis les années 1980. Et on a, grosso modo, détruit 2,5 millions d'emplois en un quart de siècle dans l'industrie. Et l'industrie, elle est importante parce que elle est clé pour l'innovation et pour les exportations. Donc ça explique aussi nos problèmes de commerce extérieur. Pourquoi est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer d'être optimiste? Il ne s'agit évidemment pas de reconstruire le Ugine Kullmann ou la sidérurgie des années 1970. En revanche, on a quand même un certain nombre d'atouts. Le premier atout, c'est qu'évidemment, il faut faire une industrie qui soit à la fois une industrie de l'âge numérique et de la transition climatique. Pour ça, ça a été à un moment donné malheureusement assez abîmé, mais je pense qu'on est revenu sur l'erreur. La France a la chance d'avoir normalement une énergie abondante, décarbonée, qui s'appelle l'énergie nucléaire. Et ça, si on l'utilise de manière intelligente, c'est un atout qui est un atout vraiment, vraiment fort. Et de même, il reste des endroits, il reste des pôles d'excellence. Alors, les endroits où on avait réussi à avoir des filières, les deux grands pôles d'excellence qui restent, c'est l'aéronautique et puis le luxe. Mais on peut reconstruire des filières dans un certain nombre de secteurs, quitte d'ailleurs, effectivement, à les protéger. Je pense, par exemple, toutes les industries clés pour l'industrie climatique. On a laissé les Chinois construire des monopoles à coup de subventions. Et c'est vrai que c'est absurde de... L'Europe commence à revenir là-dessus et à mettre en place à la fois des droits de douane et puis des protections pour ne pas laisser la Chine avoir le monopole du véhicule électrique, des batteries électriques, des éoliennes et des panneaux solaires. Donc, il y a une prise de conscience et il y a une prise de conscience aussi du côté des pouvoirs publics. Et ce qui peut quand même inciter à l'optimisme, c'est que c'est la première fois depuis... On a arrêté de détruire des usines, on a arrêté de détruire des emplois industriels. Donc, on est en petit positif, mais après des décennies de destruction systématique. Donc, il y a quand même du mieux, ce qui montre que si on améliore aussi un peu les choses sur les impôts de production, ensuite, la France conserve un certain nombre d'atouts qu'elle peut essayer de mettre en œuvre. Alors, sur la mutation du capitalisme aujourd'hui, c'est une question qui est très compliquée parce que c'est sous forme de question. Mais vous voyez, quand on regarde la politique américaine, elle est quand même, en tout cas, ce qu'a fait Biden avec l'IRA, c'est quand même quelque chose qui change... beaucoup la donne, parce que c'est une intervention très lourde de l'État américain dans la production, ce qu'on n'avait pas vu, enfin ce qu'on avait vu juste en 2008 pour l'automobile et le sauvetage d'un certain nombre de secteurs. Et surtout, c'est l'idée que, pour le coup, il y a un lien direct avec la transition climatique, mais aussi avec la reconstitution d'une classe moyenne et le fait d'avoir des salaires qui soient à la fois stables et à des niveaux convenables. Et un des enjeux de l'élection présidentielle américaine, là, c'est que, comme vous l'avez vu, la technologie, normalement, elle était du côté des démocrates. Elle est en train de passer du côté de Trump, mais c'est un des enjeux intéressants de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je pense qu'autour de ce duel Harris-Trump, qui va être beaucoup plus... serré et inattendu que prévu, il y a une vraie question sur l'évolution du capitalisme américain. Et il y a la possibilité d'avoir de commencer à se décoller de ce capitalisme ultra-financier, si je puis dire, qui a quand même fait, qui a créé des richesses, mais qui a aussi fait beaucoup de dégâts. Et avec l'idée que Biden a commencé à mettre en œuvre, qui est l'idée que la tech doit être régulée, ce qui tombe sous le sens. Mais les États-Unis, à la fois pour des raisons stratégiques et économiques, ont laissé se développer une suite de monopoles, les fameux, avec Nvidia, c'est le dernier, mais les Apple, Google, Amazon, etc., qui ont été en fait en dehors de toute véritable régulation et qui ont pu mettre en place un système qui est un système de prédation. Mais, si vous voulez, en Chine comme aux États-Unis, les gens oublient souvent, mais le capitalisme américain est un capitalisme de prédation. Si vous regardez le 19e siècle sur la nature, c'est intéressant de voir que aux États-Unis, la première régulation qui a été installée, c'est aussi un capitalisme de monopole pour les mêmes raisons. Rappelez-vous qu'aux États-Unis, avant la Banque centrale, la première régulation, c'est le Sherman Act sur la concurrence. La Banque centrale, elle vient bien après, le krach de 1907, elle vient en 1913. Donc, il y a des questions qui se posent. La question pour l'Europe, que je vais de manière schématique, c'est qu'on est quand même pour l'instant dans un monde où les États-Unis financent et innovent. Chaque année, il y a quand même 300 milliards qui partent d'Europe pour financer de l'innovation aux États-Unis. La Chine, elle produit et l'Europe réglemente. Mais on ne peut pas faire que réglementer. Alors ça a été vrai sur les données où le RGPD est devenu un espèce de standard mondial. Mais vous voyez que si on ne fait que réglementer sans produire, sans financer, sans innover, il y a quand même un moment où les choses ne peuvent pas bien se passer. Donc pour l'Europe, contrairement aux États-Unis, le vrai défi, c'est de redevenir un continent de production et d'innovation.
Merci beaucoup pour votre exposé, très intéressant. J'avais une question un peu plus peut-être dans la prospective. Comment vous intégrez la baisse du taux de natalité et les flux migratoires passés et à venir, notamment liés aux problématiques climatiques?
Merci beaucoup pour la question. Vous savez, c'est Pierre Dac qui disait qu'il est toujours dangereux de faire des prévisions, surtout quand c'est dans l'avenir. Mais en fait, il y a quand même une... Mais la démographie fait partie, j'allais dire, justement, des points sur lesquels c'est vraiment... Vous avez raison d'y insister. C'est une des structures les plus lourdes. Donc, la France est aujourd'hui rattrapée par la crise démographique des pays développés. Il n'y a que les États-Unis qui ont une population qui continue à croître, alors, par l'immigration, mais aussi par le solde naturel qui reste positif. Donc en France, on est passé de 2,1 à 1,67 enfants par femme. Et donc maintenant, on est très en dessous du seuil de renouvellement. Et ça, évidemment, ça va produire des effets sur la population active. Vous savez qu'en Chine, la population active diminue de 10 millions de personnes par an déjà. Donc la Chine est déjà rattrapée par son hiver démographique. Donc, le choix entre natalité et immigration, il est intéressant. Si vous regardez l'Italie l'an dernier, donc comme vous savez, elle est dirigée par Madame Meloni, qui est normalement très ferme sur les problèmes de sécurité qu'elle associe à l'immigration. Madame Meloni a régularisé 450 000 migrants l'an dernier. Elle l'a fait pourquoi ? Elle l'a fait parce que... quel que soit le gouvernant en Italie, est en réalité proche des milieux d'affaires et que le business milanais et turinois n'a littéralement plus assez de bras. Et c'était implicite dans la décision de Mme Merkel d'ouvrir les frontières que de récupérer de la main-d'œuvre pour l'industrie allemande. Alors je pense que ces problèmes, et c'est vraiment des problèmes fondamentaux, et que ce soit la démographie ou l'immigration, c'est certainement pas, on ne peut pas les piloter uniquement pour des raisons économiques, ça c'est absolument certain. Mais ce qui est vrai, c'est que s'il y a un effondrement, le pays qui a fait le choix, qui a une démographie effondrée et qui refuse toute immigration, il y a un exemple dans le monde, c'est le Japon. Et le Japon, en fait, les Japonais, donc le PIB japonais stagne ou décroît, mais la richesse par habitant reste stable par la baisse, parce que la population baisse plus vite que le PIB. Donc c'est vraiment une spirale de malthusienne dont on verra ce qu'elle donne. Pour l'instant, les Japonais sont très fermes sur le fait que la société japonaise refuse de recourir à l'immigration, mais on voit très bien que le Japon, qui était, a perdu sa place de troisième puissance économique du monde, et à mon avis va être assez vite dépassé par un certain nombre, notamment de pays d'Asie. Donc, si on raisonne, et je vous le dis, en tout cas en matière économique, il y a une règle, c'est que les systèmes fermés finissent toujours par dépérir. Et donc l'idée d'avoir une immigration zéro me paraît en soi une absurdité. En revanche, donc, l'Europe doit recourir à l'immigration parce qu'elle a une démographie qui est déclinante, mais la question qui se pose, c'est comment on régule, comment on choisit, qui on souhaite faire venir, dans quelles conditions. Et ce qui est sûr, en revanche, là où il y a un lien fondamental, c'est que partout dans le monde, l'intégration de l'immigré se fait par le travail. Aujourd'hui, beaucoup moins par les mariages mixtes, parce qu'on a des effets communautaires partout, mais que le principal vecteur, c'est le travail. Et donc, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de travail et où il y a du chômage de masse, vous pouvez être sûr que l'intégration des immigrés se fera mal. Et donc, c'est le cas en France pour des raisons évidentes.
Bonjour. Je voudrais parler d'un sujet qui n'est pas abordé, c'est le capital santé. Je suis masseur kinésithérapeute, comportementaliste, je fais des cours d'intensité. Et actuellement, le nombre de pathologies, madame, neurodégénératives et cancer est en nette augmentation. Il est urgent de prendre conscience de ce qu'on a modifié depuis 30 ans dans notre environnement direct et indirect. On a changé nos habitudes comportementales avec la technologie du scientifique. Et on a oublié que président d'une association reconnue d'intérêt général, nous avons de plus en plus de personnes électro-hypersensibles qui sont en dehors du milieu professionnel parce qu'elles ne peuvent plus travailler. Donc là, c'est un autre sujet. J'apprécie évidemment, excusez-moi, mais je pense qu'il est vraiment urgent de redresser les bases. Nous avons en priorité un corps humain. Nous sommes incarnés. Le Christ est venu, il s'est incarné. J'aimerais juste vous dire, mais reprenons nos bases pour pouvoir rebondir. L'économie en dépend aussi. Je ne suis pas économiste, moi je suis une masseuse, kinésithérapeute, je m'occupe des patients. Et je peux vous dire qu'il y a une urgence à considérer nos façons d'être. Vous parliez des pays nordiques qui commencent à nous inspirer. Et oui, ils ont arrêté en Norvège de mettre des tablettes numériques dans les mains des enfants. L'œil et la main, c'est fondamental. Je vous invite à lire le livre de Raphaël Gaillard, qui est l'homme grandi, qui est un nouveau membre de l'Académie française, 47 ans, et qui parle du cerveau. On a Elon Musk qui nous fait miroiter plein de choses qui dans son monde. S'il vous plaît, revenez à terre. Laissez-nous vivre pour rebondir et permettre à nos enfants de se construire. C'est par l'expérimentation.
Non, mais je ne vous ai pas défendu l'homme augmenté d'Elon Musk, c'est pas du tout ses fautes. Et par ailleurs, vous avez parfaitement raison sur les dégâts que font un certain nombre d'appareils technologiques sur les enfants, c'est tout à fait vrai. Là où vous avez aussi raison, c'est qu'il y a deux grandes politiques publiques qui sont très importantes pour l'économie, mais pour le reste de la société, c'est éducation et santé. Alors, la santé n'était pas directement dans mon... Mais là-dessus, vous avez assurément raison. Un point qui est important, alors évidemment, c'est que dans les mouvements intéressants qui se font, c'est qu'incontestablement, le travail post-Covid n'est pas le même que le travail pré-Covid. On a beaucoup de formes d'organisation plus souples. Alors, il y en a un certain nombre qui ne peuvent pas répondre aux problèmes que vous soulevez, puisqu'elles sont à base de technologie, donc ça, par principe, effectivement. Les modes d'organisation du travail sont quand même en train de bouger beaucoup, de s'assouplir beaucoup. Dans les grands mouvements qui se passent dans les pays développés, c'est la montée, justement, le retour du travail indépendant, alors qu'il peut donner le meilleur et le pire. Hein, quand c'est un faux entrepreneur asservi par une plateforme numérique, évidemment, c'est de la fausse indépendance et c'est une forme d'esclavage moderne. Mais autrement dit, cette société salariale qui avait finalement absorbé pratiquement tout le monde du travail, elle est en train de laisser plus de choses sur les marges. Et c'est dans ces espaces-là que sans doute vous pouvez vous inscrire. Mais je pense que d'ailleurs vous en êtes un bon exemple. On peut tout à fait avoir une activité professionnelle avec les contraintes du mode de vie que vous avez choisi. Et par ailleurs, il y a des choses sur lesquelles vous avez raison qui sont valables pour tous, notamment l'alerte sur... il n'y a pas qu'en Norvège, il y a quand même beaucoup d'endroits dans le monde où on revient sur l'idée que les instruments numériques vont suppléer à ce qui est fondamental, c'est-à-dire un travail pédagogique entre un professeur, des enfants ou des élèves, et que la technologie n'est absolument pas un substitut à ça. Alors, je ne crois pas, parce qu'il y a un problème d'attractivité. Si vous surtaxez le capital étranger, ben, il ira ailleurs.
Justement,
c'est l'argument qu'on redonne à chaque fois. Mais... Non, mais il est vrai. Surtout si... Oui, mais pour l'instant, si vous voulez, en termes de capital humain, la France, là encore, est un pays qui est très partagé, parce qu'il y a une partie de la France qui est très compétitive, avec d'ailleurs on le voit, puisque dans la Silicon Valley, on a beaucoup d'ingénieurs français, ce qui montre l'excellence des formations. Mais quand vous êtes un investisseur étranger qui examine des possibilités d'implantation en Europe, la France, elle a deux grands handicaps, c'est le droit social et la fiscalité. Et donc, vous retombez, quand vous créez, parce que vous avez une structure d'emploi qui est à peu près large, vous retombez sur les problèmes de surcoût. Donc, je prendrais le problème différemment, mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est le plaisir de la discussion, c'est que je pense que ce qui est anormal, c'est l'insuffisance du capital productif français. Et quand vous regardez précisément les pays d'Europe du Nord, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi aussi à faire ça? C'est parce qu'ils ont des fonds de pension. Et le fonds de pension, c'est une machine qui permet d'avoir une épargne longue qu'on investit dans les fonds propres des entreprises qui sont les entreprises du pays. Et ça nous manque cruellement. Donc on y supplée par des quasi-fonds propres, par toute une série de produits financiers sophistiqués, mais on y supplée surtout en faisant appel à du capital étranger. Alors c'est tout à fait bien que des étrangers investissent dans les entreprises françaises. Le problème, c'est qu'effectivement, ça crée un problème de dépendance et qu'on a aujourd'hui un peu plus de 40% du CAC 40 qui est entre les mains d'investisseurs étrangers et que à terme, c'est vrai que c'est toujours la même chose. Si on a des actionnaires étrangers qui deviennent majoritaires, on peut se dire qu'à un moment donné, ils peuvent aussi décider que de changer le siège social ou de changer l'entreprise. Et c'est arrivé notamment avec des opérations de fusion. Par exemple, Lafarge-Holcim, Lafarge a disparu. On a eu ArcelorMittal. Il y a eu Pechiney. Il y a eu beaucoup d'exemples de ce type. Donc, je crois que la meilleure réponse, c'est plutôt d'avoir une base de capital national forte qui permette d'ancrer les entreprises sur le territoire français. Et par ailleurs, il faut être attractif parce que c'est ce qui permet aussi de reconstruire une offre qui soit une offre la plus diversifiée possible et donc de reprendre le contrôle de notre commerce extérieur. Et le déficit du commerce extérieur est quand même directement lié aussi au déficit public. Donc c'est bien par la production qu'on peut essayer de résoudre les problèmes macroéconomiques français, et y compris évidemment celui du chômage. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui la France, donc il y a 58% de dépenses publiques et il y a 52% de prélèvements publics, c'est-à-dire qu'il y a 45% de prélèvements obligatoires et puis il y a tout le système de la parafiscalité. Et on est au top sur pratiquement toutes les catégories d'impôts qui peuvent exister et avec les taux parmi les plus élevés. Donc si c'était le fait de monter les impôts qui permettait de générer de la croissance et des emplois, normalement on les aurait. Et en réalité... Donc c'est pas du tout le cas. Donc je ne crois pas du tout, et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple d'Europe du Nord. C'est-à-dire que, à l'inverse, l'idée de dire baissons drastiquement les dépenses publiques et les impôts et ça créera automatiquement de la croissance et des emplois, c'est pas vrai non plus. Mais en tout cas, la France aujourd'hui est vraiment un pays qui est surfiscalisé. Quand je vous ai donné d'ailleurs, c'est intéressant, si vous regardez ces mouvements sociaux, par exemple le gilet jaune agriculteur. Les gilets jaunes, c'est parti de la hausse de la fiscalité sur les carburants, qui pourrait se justifier d'un point de vue écologique, mais le problème, c'est que quand on part d'un niveau qui est déjà très élevé, puisque la fiscalité et les taxes sont très largement majoritaires dans le prix du litre de carburant que vous achetez aujourd'hui. Et donc, on prend des risques politiques et sociaux aussi, et on prend des risques économiques de dégrader, en tout cas, l'attractivité. Mais... Non, mais je pense que... la fiscalité, c'est un débat qui est effectivement un peu technique, mais d'abord, la fiscalité des grandes entreprises françaises, le CAC 40, c'est des entreprises qui sont largement mondialisées. Et donc, il y a un principe de territorialité de l'impôt. Et donc, c'est vrai que quand on prend, par exemple, un groupe comme Total, Énergie, la France n'a pas de pétrole, donc par définition, l'essentiel des impôts payés par Total dans le monde, c'est payé dans les zones où Total extrait. Et donc en France, il y a le raffinage et puis la distribution. Mais c'est assez marginal par rapport au chiffre d'affaires du groupe. Donc d'abord, sur les grandes entreprises françaises, il faut que vous ayez ça en tête, elles sont mondiales. Et donc le principe de territorialité de l'impôt fait qu'elles payent de l'impôt là où elles sont actives. Là où vous avez, où je pense que votre argument qui ne marche pas pour la France, marche en revanche pour un certain nombre de pays. Et le pays où ça, cet argument est juste, ce sont les États-Unis. Quand on regarde, si vous voulez, la répartition de la valeur ajoutée entre le travail et le capital en France, c'est stable en fait depuis les années 70. Et c'est largement à l'avantage du travail et ça n'a pas bougé. En revanche, aux États-Unis, on a une structure aberrante où on se retrouve avec une structure d'inégalité qui ressemble à celle du 19e siècle, avec donc 1% de la population qui, grosso modo, détient 20% des revenus et 30% du capital. Ce n'est pas du tout le cas de la France. Le cas de la France, le 1% le plus riche, il détient 8% du capital. Donc vous voyez, je pense que votre argument, si vous l'appliquez aux États-Unis à la suite de cette grande phase, ça marche. Pour la France, je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Et si vous voulez, ça ramène à ce que je disais au début, c'est qu'il faut faire attention quand même. Il faut éviter d'être manichéen et il faut faire attention aux formules générales. On est d'accord, partout dans le monde aujourd'hui, dans le monde développé, on a des problèmes massifs d'intégration d'inégalités, des problèmes de polarisation, des problèmes de déstructuration de la classe moyenne, et puis un problème énorme d'adaptation à la révolution numérique et à la transition écologique. Mais ensuite, les situations ne sont pas les mêmes en Europe du Nord, en Europe du Sud, en Asie ou aux États-Unis. Et donc, dans les solutions, il faut, je crois, prendre en compte ces spécificités nationales. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que votre raisonnement soit valide pour la France. En revanche, je le reprendrai volontiers à mon compte pour les États-Unis.
Il va falloir qu'on...